fait, il y a quelques temps, dans ma lecture, je suis arrivée à un des passages que j'aime le plus dans la Bible, un des versets qui me touche beaucoup. Et donc, je croyais le connaître bien. Et en fait, en le lisant, il y a quelque chose qui m'a frappée dans le passage que j'avais jamais vu avant. Et du coup, j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui. Donc, le verset en question, c'est 1 Pierre, chapitre 5, et c'est le verset 7. Oui, c'est ça. « Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. » Et bon, c'est un passage qu'on connaît bien, qu'on a entendu plein de fois, qui, moi, m'encourage toujours, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de passages, en tout cas dans le Nouveau Testament, où c'est écrit clairement que Dieu se soucie de nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'on est important pour lui. En anglais, c'est « he cares ». On n'a pas vraiment l'équivalent en français, mais en gros, c'est on compte pour lui. On a du prix à ses yeux, il s'intéresse à ce qui nous arrive au jour le jour. Et donc ce verset, pour moi, était quelque chose qui m'avait parlé il y a un certain temps dans ma vie, qui était important, mais j'avais jamais vu dans quel contexte il était, en fait, dans le passage. Et du coup, là, j'ai relu en commençant un petit peu plus tôt. Et donc, si on commence à lire au verset 5, l'apôtre Pierre a parlé aux dirigeants de l'Église, en leur donnant des conseils sur la façon dont ils devaient s'occuper du troupeau. Et ensuite, au verset 5, il parle aux jeunes gens. Et là, dans ce contexte-là, un peu, c'est tous les autres dans l'Église, tous ceux qui ne sont pas les dirigeants, en leur disant « Soyez soumis aux anciens, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. » Et donc, en lisant tout, je me disais, en fait, le sujet du passage, c'est pas que Dieu a soin de nous. C'est vrai, c'est ce qui est rajouté après pour expliquer autre chose. Le sujet du passage, c'est l'humilité, et c'est la soumission aux autorités, en fait. Mais ce qui est beau, c'est que quand on le met en perspective avec ce verset 7, c'est que quand on se soumet à une autorité, et en particulier peut-être pour nous en tant que femmes, ça veut dire que on accepte que ça soit plus nous qui contrôlions notre vie, en tout cas dans le domaine de cette autorité, mais que ça soit l'autorité qui décide à notre place. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire qu'on laisse à quelqu'un d'autre, à Dieu ou à un homme, la responsabilité de prendre des décisions, et qu'on accepte de suivre leurs décisions, avec peut-être, nous, des idées différentes, la crainte qu'il se trompe. Et en fait, du coup, Dieu nous dit, je veux que vous fassiez ça, je veux que vous soyez soumis aux autorités. Là, il parle des autorités dans l'Église. Mais ne vous inquiétez pas, en fait. Je sais que c'est difficile pour vous, je sais que ça vous provoque des inquiétudes et des soucis, parce que vous vous demandez si vous avez raison. Mais tout ce que je vous dis, c'est rejeter votre souci sur moi, parce que moi, je me soucie de vous. Je n'arrive pas bien à le mettre avec des mots, mais pour moi, c'était vraiment cette idée que s'humilier, en fait, c'est renoncer à tout contrôler. Et quand Dieu nous dit qu'on doit être soumis, c'est qu'il nous demande dans certains domaines de pas contrôler les choses nous-mêmes, mais de laisser contrôler quelqu'un qui l'a établi pour ça. Et après, on va voir un petit peu, ça se décline dans toutes sortes de choses dans notre vie. Il y a plein de domaines où on peut faire ça. Mais simplement, on ne peut pas le faire avec la paix dans le cœur si on ne se rappelle pas de ça. C'est que c'est Dieu qui est en contrôle, c'est lui qui nous a demandé de nous soumettre. Et si on le fait, on est sûr quelque part qu'il va garder nos arrières, en fait. Il va s'assurer que toute chose concourt pour notre bien. Et donc, on risque rien de perdre à être soumise. Et je me mettais en relation avec un autre passage que j'aime bien, qui est le psaume 131. C'est un tout petit psaume qui fait 3 versets. C'est un des psaumes préférés de Pasteur Chaleur. Donc, j'ai entendu beaucoup prêcher quand j'étais à Baltimore, là-bas. Mais c'est un beau psaume qui dit « Éternel, mon cœur n'est pas hautain et mes yeux ne s'élèvent pas et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Et je trouve que ce psaume, il parle un peu de ça aussi. C'est que si on reste à notre place devant Dieu, on réalise en fait qu'on est en contrôle de rien du tout dans notre vie. On a l'impression qu'on contrôle les choses, mais on contrôle rien. parce qu'on ne sait pas ce que pensent les gens autour de nous, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il y a dans notre propre cœur, quelles sont nos vraies motivations. On a l'impression qu'on fait quelque chose pour une raison, et en vrai, il y a une autre raison derrière dont on n'est pas conscient. En fait, voilà, rien n'est, on ne sait pas non plus les choses que Dieu a préparées à l'avance pour nous, pour les jours, les mois, les années qui viennent, pour l'éternité encore moins. Donc, on croit contrôler, mais on contrôle pas parce qu'on a une quantité d'informations très limitée. Et en fait, si on peut faire comme cet enfant-là du psaume 131, cet enfant sevré, si on peut lâcher prise, c'est un mot qui est à la mode dans le monde, qui veut dire autre chose dans le monde. Lâcher prise dans le sens où juste redonner à Dieu ce qu'il nous demande de lui redonner. Lâcher prise dans le monde, c'est il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que j'arrête de m'occuper des autres. En gros, c'est ça quand même, lâcher prise, hein, soyons clairs, quand on écoute ce que le monde en fait comme définition. Mais pour nous, c'est plus, il y a des choses que Dieu nous confie et dans lesquelles il veut qu'on soit en charge. Et puis, il y en a d'autres, il demande qu'on les lui laisse, en fait, parce que c'est pas de notre autorité, c'est pas de notre domaine. Il a placé des personnes sur nos vies pour s'occuper de ces choses-là. Et si on essaye de continuer à s'en occuper malgré tout, on va prendre une charge qu'il n'a pas prévue pour nous, et on n'a pas la provision pour cette charge-là, en fait. Donc on a besoin de lâcher prise sur ces choses-là, et ça se fait en respectant les autorités que Dieu nous a données, et en les laissant porter ce qu'elles ont apporté. Et nous, ça nous permet de suivre en ayant confiance en Dieu. Et du coup, ça fait que quand on a cette attitude-là, au lieu d'avoir l'inquiétude en permanence dans notre cœur, on va avoir la paix. En fait, quand on cherche à tout contrôler et qu'on essaye de se soumettre en même temps, on est inquiet tout le temps parce qu'on a l'impression que tout nous échappe, que ça va mal se terminer, que c'est fatigant, en fait, de vivre comme ça. C'est fatigant de vivre en essayant de contrôler. Alors que si on remet à Dieu, alors on commence à expérimenter sa paix. Et en fait, je pensais, pour nous, en tant que femmes, être soumise à Dieu, déjà, c'est pas toujours facile. On n'y arrive pas toujours. Mais nous, en plus, Dieu nous a demandé d'être soumises à des hommes. Alors, en tant qu'épouse, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, ça peut être nos patrons au travail. Alors, c'est pas toujours des hommes, c'est vrai, mais des hommes, en tout cas, des êtres humains, que ce soit au travail, que ce soit les dirigeants de notre pays, les dirigeants dans l'Église. Et alors, déjà, être soumise à Dieu, on a du mal, alors qu'il est parfait. Mais être soumise à des hommes dont on sait qu'ils sont faillibles et pécheurs et qui peuvent faire des erreurs et qui peuvent se tromper, c'est encore autre chose. Et donc on a encore plus besoin, je trouve, de se rappeler ce passage de 1 Pierre 5, quand dans les domaines où on doit se soumettre à des hommes, pour se dire, voilà, si je suis ce que les dirigeants de mon pays demandent en ce moment, et moi je suis pas sûre qu'ils ont raison, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir du coup des conséquences négatives dans ma vie? Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Dieu, il nous demande, soumettez-vous. Il nous demande pas qu'est-ce que vous pensez de ce que l'autorité, si elle a raison ou si elle a tort. Alors évidemment, avec des limites. Si l'autorité nous demande quelque chose qui est opposé à la parole de Dieu, là, c'est clair. On n'a pas à la suivre. Mais dans les autres cas, c'est ce que Dieu nous demande. Et ça s'applique dans plein de choses. Ça s'applique dans l'Église, quand on comprend pas des fois, la vision qui est donnée, mais des fois on a l'impression que ça va pas marcher, entre guillemets. Peu importe, c'est pas à nous que Dieu donne la vision pour l'Église, donc il faut juste faire confiance aux dirigeants que Dieu a placés et à qui il parle. Et puis si ça nous inquiète, rejeter ça sur Dieu, et on peut être sûr qu'il a soin de nous et qu'il va prendre soin de nous, qu'il va faire concourir toutes choses pour notre bien. Et donc j'ai déjà commencé un peu à les citer, mais j'ai regardé du coup différents versets qui parlent des différentes autorités sous lesquelles on est placé. Donc il y a les autorités du pays, ou de la ville, ou de la nation, etc. Donc on trouve ça en Romains 13, versets 1 et 2. Je les lis, mais allez pas les voir, c'est juste pour les citer au passage. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Et puis aussi en Tite 3, les versets 1 et 2, rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissant, d'être prêt à toute bonne œuvre, etc. Donc c'est C'est Dieu qui a placé les autorités. En fait, c'est de ça qu'il faut qu'on se rappelle. C'est ça qui nous aide, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait. Dieu a placé les autorités en place, même les mauvaises. Et il a un plan. Il les utilise d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous, on ne devrait pas trop se poser la question de est-ce que l'autorité a raison de faire ci ou ça. Parce que ça nous appartient pas. Ça, c'est le psaume 131. C'est penser à des choses trop élevées pour nous. Nous, on n'est pas à cette place d'autorité, donc on n'a pas à se poser la question de est-ce qu'il faut faire comme ci ou est-ce qu'il faut faire comme ça. Combien de fois on entend les gens se prendre la tête, se faire du souci sur des choses qui ne leur appartiennent pas du tout, sur des décisions des dirigeants du monde, même parfois d'autres pays que le leur, et vraiment à s'inquiéter de « mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire ça ?» Ils ne peuvent rien y changer. On ne peut rien y changer. De toute façon, on peut prier, mais on ne peut rien y changer. Et c'est pas la part que Dieu nous a donnée. On n'est pas dirigeant du monde, d'un pays. Donc on peut juste prier pour nos autorités, être soumis tant qu'ils nous demandent pas de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, et avoir confiance que Dieu est en train de les utiliser. Alors qu'au contraire, si on fait comme le peuple d'Israël, on peut s'opposer au plan de Dieu en s'opposant à l'autorité. On voit ça plein de fois dans l'histoire du peuple d'Israël, mais notamment dans le discours d'Étienne en acte 7, il le rappelle aux Israélites à qui il parle. Il leur dit au verset 37 à 40, « C'est ce Moïse qui fut dans l'assemblée au désert avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, qui reçut des oracles vivants pour nous les donner, auxquels nos pères ne voulurent pas être soumis, mais ils le repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Donc on a le choix en fait de quel genre d'attitude on va avoir vis-à-vis de nos autorités. Est-ce qu'on va s'en défier ou est-ce qu'on va pas leur faire confiance, parce qu'on sait qu'on peut pas faire confiance à des hommes, mais faire confiance à Dieu qui les a placés et du coup se placer sous leur autorité. Donc ça c'est les autorités instituées dans le pays notamment. Après, il y a évidemment pour celles d'entre nous qui sont mariées, nos maris. Et puis c'est vrai qu'ils soient croyants ou non, parce que c'est juste le fait d'être marié avec quelqu'un, d'être dans cette alliance devant Dieu, qui fait qu'on doit être soumise. Mais je pense que c'est peut-être encore plus quelque chose qui est qu'une femme mariée à un incroyant doit se rappeler pour s'encourager, de se dire que ça doit faire peur d'un côté, de se dire je me soumets à un incroyant et peut-être il sait pas vers où mener notre couple, notre famille. Et en même temps, si on croit que c'est Dieu qui nous demande de nous soumettre à notre mari, on peut lui faire confiance aussi là-dessus. Encore une fois, bien sûr, avec la limite que le mari nous emmène pas quelque part, qu'il soit contre la volonté de Dieu, mais tant qu'on est dans ce que la parole autorise, il y a une bénédiction particulière qui s'attache au fait de se soumettre à son mari, et il y a une promesse pour la femme qui a peur de le faire, qu'elle peut rejeter tout son souci sur Dieu et être sûre qu'il prend soin d'elle. Donc les versets pour le mari, c'est Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée. Chef, c'est pour tête, ça dépend des versions, des fois c'est tête. Lui, le sauveur du corps. Et comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Et puis 1 Pierre 3, verset 1. Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Donc les autorités du pays, nos maris, après on a nos patrons, en tout cas les gens pour lesquels on travaille. Pareil, là la parole prend la peine de préciser qu'ils soient bons ou mauvais. Vous savez très bien qu'il n'y aurait pas que des bons. Et que c'est justement quand c'est des mauvais. Alors déjà, elle les appelle mauvais, donc on a peut-être le droit de discerner, de dire « mon patron est mauvais, c'est possible ». Et après, qu'est-ce que j'en fais de ça? Soit peut-être j'ai la possibilité de travailler ailleurs, ça c'est une chose. Peut-être que j'ai le choix, ou peut-être que je reste pas sous ce patron mauvais. Mais si j'ai pas le choix, et là en l'occurrence, dans les épîtres, Paul il parlait des esclaves, donc ils n'avaient pas le choix de changer de maître. Si on tombe avec un patron mauvais, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va en permanence parler derrière son dos, essayer de mener une rébellion, essayer de pas se soumettre à son autorité, ou est-ce qu'on va avoir le courage de faire ce que dit la parole, et qui est de se soumettre quand même, même si c'est pas facile, même si on n'est pas d'accord avec les décisions qu'il prend, et de faire confiance à Dieu, de dire « Seigneur, tu as promis que je peux te laisser ça, et je te fais confiance. » C'est en 1 Pierre 2,18, le passage sur les patrons qui sont mauvais. « Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. » Fâcheux en arabe, je ne sais pas ce que c'est, en Louis II. Et aussi en Tite, c'est intéressant, Tite 2, versets 9 et 10, exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Et il y a ça aussi, en fait, c'est un autre aspect, c'est pas vraiment le point d'aujourd'hui, mais on l'a vu déjà pour le mari incroyant, et là pour le maître fâcheux, le mauvais maître. En fait, en étant soumis alors qu'il ne le mérite pas, en quelque sorte, on a en plus un témoignage à rendre. Ça peut les toucher eux, ça peut les changer, et puis ça peut toucher les gens autour de nous aussi, parce que c'est pas quelque chose de naturel de se soumettre à quelqu'un de mauvais. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les dirigeants dans l'église, donc le pasteur, et puis tous ceux qui ont une place de direction. C'est Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Donc là aussi, il y a un peu la double vision. Il y a le côté pour nous, encore une fois, de faire confiance au fait que si Dieu a donné la vision à cet homme-là, lui voit sur la route en avant des choses que je vois pas encore, parce que Dieu les lui a révélées. Et donc même si je comprends pas la direction dans laquelle il va, je peux juste continuer à suivre en ayant confiance au Seigneur, en fait, en ayant confiance que c'est lui qui va conduire. Et je pensais, là c'est abstrait, on en parle, on est assis tranquillement, on est dans une église où dans l'ensemble on est contente d'être, où tout va bien, donc c'est simple. Mais je pensais juste par exemple à un défi comme, et je sais pas si c'est du tout son cas, je parle pas du tout précisément pour ça, mais je pense à un défi comme ma sœur qui en ce moment a changé complètement d'environnement. Elle était en Afrique depuis 10 ans, connaissait cette vie, et puis tout d'un coup son mari a la vision d'aller en Roumanie, et donc elle déménage en Roumanie, et elle connaît pas le pays, elle connaît pas la langue, elle sait pas encore exactement comment ils vont être utilisés là-bas. C'est entièrement nouveau, elle sait pas encore comment ça va marcher pour les enfants, etc. Elle part en fait vraiment comme Abraham, presque, en ne sachant pas où elle allait. Ok, il y a un nom sur la carte, mais c'est tout. Elle sait pas du tout ce que ça représente. Et je me disais quand ça nous arrive de suivre, alors là c'est les deux, c'est le pasteur et Marie, notre autorité dit un truc vraiment qui va changer notre vie de façon radicale comme ça. Ça demande vraiment de la foi et de la soumission au Seigneur, de se dire, ok, moi je sais pas si c'est ce que je choisirais, mais je fais juste confiance parce que je suis mariée à cette personne, ou je suis dans l'église de ce pasteur, et je crois que c'est Dieu qui lui donne la vision. Donc je suis, je prie, et quand je m'inquiète, quand je me fais du souci pour des détails, pour comment ça va se passer, pour est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça, je rejette ces soucis-là sur le Seigneur en me rappelant qu'il a soin de moi, qui m'a donné ce mari ou ce pasteur, et qu'il est en train de les utiliser dans ma vie, en fait. Il est en train d'utiliser ce qui se passe en ce moment pour le bien de chacun, et y compris dans la famille. Et puis je pensais aussi à des exemples qu'on a dans la Bible de gens qui se sont soumis comme ça. Et en général, on commence par les petits, on va vers le grand, mais là je vais commencer par le grand. L'exemple suprême de ça, c'est Jésus. En fait, c'était celui qui aurait pu, de notre point de vue, ne pas être soumis. Il était au-dessus de tout, il était Dieu. Et pourtant, il a accepté de venir en se soumettant même à des hommes, puisqu'il a déjà commencé par être un petit enfant et obéir à ses parents. Il n'était pas obligé, il aurait pu s'incarner dans un homme adulte, j'en sais rien, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Mais il a choisi cette humilité-là, de d'abord être complètement dépendant de parents humains et de leur obéir, de leur être soumis. La Bible dit clairement qu'il leur était soumis. Et puis il s'est soumis parfaitement à son père, évidemment, pour obéir à son plan et pour venir, pour se dépouiller de toute sa divinité, pour accepter d'être un homme. Et je crois que ce qui lui a permis de faire ça, c'est la relation qu'il y avait dans la Trinité et cette confiance absolue qu'il avait, que son père avait soin de lui, que son père allait pas le lâcher, entre guillemets, qu'il allait pas le laisser dans la mort, mais qu'il allait le ressusciter et qu'il allait prendre soin de lui. C'est vraiment l'exemple suprême de j'obéis et j'ai confiance que Dieu va prendre soin de moi. Je risque tout, je donne tout. Et j'ai confiance de ce que Dieu va faire. Et en mourant, c'est ce que Jésus a fait. Et puis ensuite, je pensais à des exemples humains aussi d'Esther, par exemple, qui a été soumise d'une part à Mardoché. Elle a obéi au plan que Mardoché lui disait, alors que ça impliquait sa vie. Et puis elle a aussi été soumise à son mari, qui était un mari incroyant. Mais elle a respecté les règles du royaume, elle a fait les choses comme c'était prévu dans le royaume. Elle n'a pas eu l'attitude de la reine Vasti qui refusait de venir quand le roi lui demandait de venir au banquet. Elle était soumise à son mari humain aussi charnel qu'il puisse être, et elle faisait confiance à Dieu pour les conséquences. Je pensais aussi à Daniel et à ses amis, les jeunes Hébreux, quand ils sont arrivés à Babylone et que ils ont été transplantés dans cette culture et on a commencé à les mettre dans un programme d'assimilation pour qu'ils deviennent babyloniens, en gros, en leur apprenant la langue, les coutumes, etc. et en les obligeant à faire tout ça. Et ils ont accepté tout ça, en fait. Alors la Bible note la chose qu'ils ont refusée parce que cette chose-là était contraire à ce que Dieu leur demandait. Ils ont refusé de manger les mets qui avaient été sacrifiés aux idoles. Et tout le reste, ils l'ont accepté. Ils ont appris le chaldéen, ils ont appris la sagesse de ces pays-là. Ils se sont soumis aux règles et aux coutumes de cet endroit sans avoir un esprit rebelle on est opprimé, on va pas servir ce roi qui nous a emmenés captifs. Ils ont servi ce roi-là. Ils l'ont bien servi. Ils ont été des bons serviteurs. Et ils s'en sont remis à Dieu aussi pour ça. Et puis je pensais aussi à Joseph, le mari de Marie, quand l'ange lui est apparu, qui avait prévu de répudier Marie, et puis quand l'ange lui est apparu et lui a demandé de la garder, il s'est pas inquiété de ce que les gens allaient dire, en fait. Il a juste obéi. L'ange lui a dit, tu peux la garder, vas-y, c'est de moi que c'est arrivé. Et il a mis de côté tous les soucis qu'il devait avoir, et ça devait pas être rien pour lui de savoir tout ce que les gens allaient dire derrière. Et il a juste obéi à Dieu. Il s'est pas posé d'autres questions. Et je pensais aussi à cette phrase, obéir, même quand on pense que ça ne va pas marcher. Parce qu'on a souvent ça dans notre pensée peut-être pas avec Dieu, parce que quand même, en tout cas, on n'ose pas lui dire en face. Peut-être des fois, on l'a au fond de notre cœur sans vraiment s'en rendre compte. Mais par contre, vis-à-vis des hommes, des gens qui sont autour de nous, des autorités placées au-dessus de nous, quand on nous demande quelque chose et que la chose nous paraît énorme, complètement en dehors de ce qu'on avait imaginé, on peut avoir cette première réaction de « mais ça va jamais marcher ». Alors que ça, c'est pas notre problème, en fait. Mais c'est la réaction qu'on a en début. Et c'est un peu rassurant, quelque part, de voir que on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens dans les Écritures qui ont eu cette même réaction. Et je pensais, par exemple, à Pierre, en Luc 5, verset 5, quand il a pêché toute la nuit, et qu'il a rien pêché, rien ramené, aucun poisson. Et puis que le matin, Jésus arrive et lui dit « jette ton filet sur le côté ». Et il lui répond, on voit tout dans sa réponse toute l'honnêteté de « j'y crois pas, mais je le fais quand même », en gros. En disant « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet ». Et je me disais, c'est une bonne façon de penser peut-être pour nous, de dire « je vois pas comment ça peut marcher, cette nouvelle idée, ce nouveau truc, cette chose que tu me demandes, mais sur ta parole, parce que je sais que Dieu t'a placé là ». Je lâcherai le filet. Et ça, c'est quelque chose dont je veux me rappeler, moi, pour ma vie, en tout cas. Ou aussi Marie, quand l'ange est venu lui annoncer la naissance de Jésus, et elle a pas eu peur de dire à l'ange, comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Elle a pas eu peur de dire la possibilité d'abord, de dire d'abord qu'elle y croyait pas, en fait. mais après de dire « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et ça aussi, je trouve que c'est une bonne façon de réagir quand une autorité nous demande quelque chose qui nous paraît auquel on a du mal à obéir dans un premier temps. C'est de dire « Ok, ça me paraît impossible, mais qu'il me soit fait selon ta parole, que la volonté de Dieu s'accomplisse ». Et puis, je pensais aussi en un roi 17, quand Élie est venu voir la veuve de Sarepta et qui lui a demandé de lui faire un petit pain, et qu'elle lui a dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux bûchettes afin que j'entre et que je prépare cela pour moi et pour mon fils, puis nous le mangerons et nous mourrons. » Et puis Élie lui dit « Non, fais pas ça, fais-moi d'abord un petit pain, puis après tu feras le petit pain. » Comme s'il n'avait pas entendu ce qu'elle avait dit, en fait. Et il est écrit, elle s'en alla et fit selon la parole d'Élie. Donc ça aussi, c'est quand quelqu'un qui est placé en autorité au-dessus de nous nous demande quelque chose, que nous on amène une objection parce qu'on comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord, et que l'autorité a l'air de même pas avoir entendu qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord et maintient ce qu'il a dit. Avoir cette attitude de dire elle s'en alla et elle fit selon sa parole. En fait, de se dire ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai l'impression que ça n'a pas été entendu ou en tout cas ça n'a pas été retenu. Moi, ce que j'ai à faire, c'est d'obéir. C'est tout. Et le seul moyen d'arriver à obéir dans ces cas-là, encore une fois, c'est de remettre les conséquences à Dieu. De dire ok, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé d'être soumise, c'est toi qui m'as demandé d'obéir. Je sais que tu as soin de moi et je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Donc, c'est entre tes mains. C'est plus moi qui contrôle, c'est toi. Et après, quand on réfléchit à ce que ça veut dire que Dieu a soin de nous, en fait, on a le même Dieu que le Dieu qui a pris soin du peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils lui ont fait voir. Parce que ça a été quand même quelque chose. Tous les murmures, toute l'incrédulité, toute l'idolâtrie. Et tout le temps, on voit l'Éternel prendre soin d'eux, les garder, les aimer. Il y a des passages tellement beaux sur la façon dont Dieu les voit. Et on a le même Dieu, on a un Dieu qui nous voit de la même manière. En fait, c'est exactement la même chose. J'ai juste noté quelques passages sur la façon dont Dieu parle de son peuple. Et on peut y penser en se disant qu'il nous voit aussi comme ça. Par exemple, en Deutéronome 11, versets 11 et 12, quand on parle, il est question du pays dans lequel Israël va entrer. Ils sont encore dans le désert. Et il parle du pays en disant « C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. » On peut considérer comme ça, en fait, l'endroit où on vit, nos circonstances, nos vies en général. Est-ce qu'on se rappelle que c'est un pays ou un endroit ou une maison, l'endroit où on vit, notre maison, notre église, c'est un endroit dont l'Éternel a soin, sur lequel il a continuellement les yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et ça nous donne le courage de prendre des décisions ou d'obéir quand c'est difficile. Puis aussi les passages où Dieu se compare à un berger, bien sûr. Donc c'est le cas pour Israël en Ézéchiel 34. Quand Dieu se présente comme un berger, il dit « Me voici, je rechercherai mes brebis, j'en prendrai soin. Comme un berger prend soin de son troupeau au jour où il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je prendrai soin de mes brebis. Je les sauverai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de la nuée et de l'obscurité profonde. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des pays, je les amènerai dans leurs terres. Je les paîtrai sur les montagnes d'Israël, auprès des ruisseaux et dans toutes les habitations du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël. Elles seront là, couchées dans un bon parc, et paîtront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je paîtrai mes brebis, et moi, je les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. La perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, la blessée, je la banderai, La malade, je la fortifierai, mais je détruirai la grasse et la forte. Je les pèterai avec jugement. C'est juste beau de voir tout le détail de comment Dieu prend soin de nous. Et aussi ce verset en acte 13, verset 18. Il prit soin d'eux dans le désert comme une mère, environ 40 ans. Et c'est ce Dieu-là qui a dit qu'il a eu soin de nous et qu'on peut rejeter notre souci sur lui. Donc on n'a aucune hésitation à avoir en fait. Et aussi un dernier point, c'est que des fois une des choses qui nous empêche d'obéir et de nous soumettre, c'est que on n'a pas vraiment complètement confiance que Dieu se soucie de nous, que Dieu a soin de nous. On a des doutes en fait. On se demande si peut-être si nos circonstances sont pas trop petites pour qu'il s'en occupe. Et on a parfois cette impression bête que oh, il a autre chose à faire, il a des choses plus sérieuses à s'occuper que nos petits soucis du quotidien. Et donc il y a des moments où on doute. Et pareil, je pensais à deux exemples dans les évangiles de gens qui ont douté que Jésus se souciait d'eux. Le premier, c'est en Marc 4, verset 38, quand les disciples sont sur la nacelle et qu'il y a la tempête, et que Jésus s'est endormi. Et ils viennent le réveiller en lui disant « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et c'est le même mot, se mettre en peine, que Dieu a souci de nous en 1 Pierre 5. C'est « Mais enfin, tu te soucies pas de nous, là. » Et donc quand on a cette impression-là que Dieu se soucie pas, c'est qu'une impression, c'est faux. Là, c'est ce que croyaient les disciples, et en fait, c'était pas du tout le cas. Et Jésus allait le montrer juste après. Et aussi, donc ça c'est un cas, c'est quand on a l'impression que tout va mal et que Dieu ne fait rien. Mais il y a un cas aussi beaucoup plus trivial et qui nous touche d'autant plus nous les dames. C'est en Luc 10, verset 40, quand Marie est assise aux pieds du Seigneur et que Marthe vient faire le reproche à Jésus en lui disant « Mais ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ?» Et c'est encore une fois le même mot, c'est « Oui, ne te soucies-tu pas de ça ?» Et Dieu se soucie de tout, même de ces petites choses, en fait. Même de ces petites choses. Et donc il faut faire attention à ces pensées qu'on peut avoir des fois, parce que quand on commence à douter qu'il se soucie de nous, alors on n'aura plus aucune capacité pour obéir et pour nous soumettre. Donc c'est vraiment, et on va essayer de reprendre le contrôle de nos vies, en fait. Dès qu'on n'a plus confiance que Dieu est en contrôle et qu'il se soucie de nous, de notre bien, on va vouloir reprendre les rênes. On va vouloir diriger les choses de nouveau et on va faire des bêtises parce qu'on peut pas, contrôler nos vies correctement. On n'a pas les informations comme j'ai dit au début. Tandis que si on fait entièrement confiance à Dieu, si on est conscient qu'il n'est indifférent à rien de ce qui nous arrive et qu'il est en train de conduire nos circonstances dans son plan parfait, alors on n'aura plus peur de lui laisser le contrôle de nos vies. Même si ça signifie parfois être soumis à un homme faillible que Dieu a placé sur nos vies. Je vais vous dire le titre maintenant. Le titre, c'était « Se soumettre sans s'inquiéter des conséquences ».